CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce mag du pays Midi-Quercy. Où dans la deuxième partie, on fera le détour par Bruniquel. Dans la chronique, les offices de tourisme prennent le micro dans la nouvelle office de tourisme qui accueille la toute nouvelle exposition permanente autour de l'histoire de Bruniquel à travers les âges, de la préhistoire à nos jours. Une exposition qu'on vous présentera pour la deuxième partie. Donc pour la première, c'est l'autre chronique, les circuits courts. Bonjour, où on rejoint Marie Brandy, la chargée de mission alimentation, circuit court du PETR du pays Midi-Quercy.
Les circuits courts, bonjour. Aujourd'hui, je vous amène à Verfeil, dans une jolie vallée, dans les contreforts de Verfeil, et je suis venue rencontrer un collectif d'agriculteurs. Et là, donc, je suis avec Timothée. Timothée, est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de ce collectif ?
Alors, nous, on est un collectif de 4 personnes, plus la personne qui nous transmet la ferme. Cette ferme, elle était en vache allaitante, donc elle fait toujours des veaux, veaux sous la mer, en Aubrac, et elle était gérée par une personne qui va bientôt partir à la retraite, et du coup, qui souhaitait transmettre sa ferme. Donc nous, on avait de la chance parce que c'est une petite ferme qui est donc facilement transmissible, avec peu de bâtiments, des vieux outils. Donc c'était plutôt une chance. Et notre collectif, on s'est tous rencontrés dans nos études à Toulouse, où on faisait de l'économie sociale. Et donc c'était surtout autour de la question des collectifs. Donc ça tombait plutôt bien. Et donc la ferme s'est créée en janvier dernier, où notre cédant, la personne qui nous transmet la ferme, et deux autres personnes se sont associées tous les trois au sein d'un GAEC. Donc il y a les activités de maraîchage et de paysanne boulangère qui se sont lancées en janvier. Donc on fait du pain et des légumes, et on garde l'activité de vaches, et du coup les veaux qu'on fait sous forme de colis en vente directe, comme le reste, le pain et les légumes. Et donc on est deux associés à se greffer à ce collectif-là, où on va commencer par un stage d'association cette année. Pendant cette année-là, du coup, on va monter deux activités, une activité brassicole, paysan-brasseur, et une activité de brebis laitière avec transfo fromagère, que je ferai moi-même. Voilà.
Attends, quand même, il y a un truc qui m'intrigue, moi. Comment vous êtes passé d'études sur l'économie sociale et solidaire et sur le collectif à l'agriculture ?
Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je suis arrivé dans ce master en me disant que j'avais envie de faire de l'agricole. Mon projet, c'était plutôt de faire une ferme de réinsertion à la base quand je suis rentré dans ces études-là. Et après, j'ai découvert le monde de la brebis. En fait, je me suis dit que je voulais être ce paysan éleveur de brebis assez rapidement. Et en fait, ce master-là nous a permis de se poser beaucoup de questions autour de la question de l'autonomie. Il y avait beaucoup de questionnements autour de la question du travail également. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant pour changer un peu le monde à notre échelle, ou changer des choses. Et du coup, toutes ces questions-là nous ont amené petit à petit au monde agricole. Et en fait, en se disant que si on montait une ferme, on allait pouvoir développer à notre échelle, dans ce monde où c'est difficile, de développer notre autonomie. Autonomie personnelle par rapport à notre travail, c'est nous qui travaillons pour nous-mêmes, et de développer des moyens de production pour qui soient durables dans le temps et qui soient gérés collectivement. Ça, c'était important pour nous. Et aussi de développer l'autonomie d'un territoire. Et donc, et une fois que cette autonomie du territoire, elle est pensée, ben peut-être qu'on peut penser à une autonomie peut-être plus politique. Et c'est ça qui nous intéressait, moi en tout cas, qui m'a amené à l'agriculture paysanne, quoi.
Et alors, du coup, voilà, vous êtes 5 ?
Oui, c'est ça. On est 5, on va être 5 sur la ferme jusqu'à ce que Eric parte à la retraite, celui qui nous transmet la ferme. Et là, on sera 4 avec 5 activités. qu'on a essayé de dimensionner à des échelles de une personne à peu près. Voilà, même si on se rend compte que parfois, même dimensionner à une personne, c'est presque un peu trop, parce qu'il y a beaucoup d'à côté à gérer. Le côté collectif, et puis bah, il y a l'activité des vaches, où c'est une activité où on essaye que ça soit collectif. Donc il faut pouvoir donner du temps pour s'occuper des vaches aussi.
Pourquoi les vaches en collectif et pas le reste ?
Parce que ça, c'était par rapport à nos envies. On avait chacun envie d'apporter un atelier, donc pas moi les brebis. Mais les vaches, ça fait partie de l'histoire de la ferme, et du coup, on voulait les garder aussi. Et du coup, on s'est dit que ça serait cool que tout le monde puisse s'en occuper et que ce soit un atelier collectif, quoi. Et puis, ouais, ça fait partie de l'histoire de la ferme. Eric a gardé cette façon de faire qui datait d'avant, de sa grand-mère aussi. Les vaches, elles sont à la tâche, donc on vide le fumier matin et soir.
À la main. Quoi ?
À la tâche. C'est une méthode... où du coup on les attache l'hiver quand elles sont dans l'étable, elles sont toutes attachées, on donne le foin par en haut, par des petites trappes, et après il faut vider le fumier à la main, alors qu'aujourd'hui les vaches sont souvent en stabulation libre, du coup elles sont dans des grands espaces où elles peuvent marcher, se déplacer, donc là on pourrait dire que c'est pas très pour le bien-être animal et tout ça, mais finalement moi j'ai l'impression que c'est une fois qu'elles sont habituées ça va, et puis on développe un lien assez fort aux vaches parce qu'on est matin et soir, le cul, enfin derrière leur cul, à vider le fumier. Et
ça crée des liens.
Ça crée des liens, voilà. Et ouais.
Ok.
Et aussi, on a essayé de réfléchir à notre modèle pour que toutes les activités puissent s'apporter l'une de l'autre. Donc, par exemple, avec les brebis ou les vaches, on va apporter le fumier pour les activités céréalières, donc le blé et l'orge, ou le maraîchage. Et par exemple, pour le blé, pour les vaches et les brebis, de récupérer tout le tri du blé pour pouvoir alimenter, par exemple pour les veaux, on leur donne un peu de grain, et pour les brebis aussi. Là, par exemple, les brebis, elles sont nourries avec le son du blé, donc qui est le résidu de tri de farine. Et donc, du coup, de voir que ces activités puissent s'entremêler, quoi. Voilà.
Finalement, c'est la vraie agriculture traditionnelle.
Sauf qu'on est à plusieurs. Enfin, aussi avant, ils étaient à plusieurs, mais on s'est dit qu'être en collectif, ça pouvait nous permettre d'être plus forts ensemble. Et parce que c'est quand même, vu qu'on n'y connaît pas grand-chose, faut tout réapprendre, ben, ça prend beaucoup de temps, et d'être plusieurs, c'est bien. On se soutient, on s'entraide. Voilà. Donc, on essaye de reproduire les fermes un peu à l'ancienne où c'était de la polyculture, polyélevage.
En autonomie, beaucoup.
Du coup, d'essayer de redévelopper ça, mais du coup, à plusieurs, quoi. Et après aussi, d'essayer, tant que possible, de faire lien avec nos voisins, voisines, et de construire aussi nos projets ensemble, quoi, avec les CUMA, avec des services d'entraide, voilà, d'essayer de réfléchir à tout ça. C'est des choses qui nous importent. Pas mal.
Alors, le collectif, c'est bien, mais c'est compliqué, non ? Comment vous le gérez, ce collectif ? Prenez des congés ? Comment vous vous organisez au quotidien ?
Eh bien, c'est compliqué. En même temps, c'est chouette parce qu'on apprend sur nous-mêmes. Bon, déjà, je pense que un des points les plus importants, c'est qu'on est accompagné par l'ATAG, qui est l'association Ternès pour une agriculture de groupe, il me semble. Et elles sont super, elles nous accompagnent beaucoup, elles nous posent des questions, elles nous poussent dans nos retranchements, vu qu'elles accompagnent beaucoup de collectifs, elles connaissent beaucoup d'outils d'organisation. Et nous, ça a été beaucoup notre problème au début, parce qu'il faut produire, il faut faire les trucs avancés, et du coup, on ne trouve pas forcément le temps pour s'organiser collectivement. Du coup, là, on a dû se poser un peu plus. Donc, on a développé plein de différents tableaux pour s'organiser. Il y a plein d'outils d'organisation qu'on est en train de tester, voir si ça va marcher. Et après, on va essayer de faire... Parce que chacun est spécialisé un peu dans son activité, mais on va essayer de se transmettre nos savoir-faire sur les activités pour qu'on puisse prendre des congés. Par exemple, le paysan brasseur est en train de se former au pain. Moi, je suis en train de me former à la fabrication de la bière. Les légumes, Léo est en train de nous former avec le paysan brasseur. Enfin, voilà, on essaie de se transmettre un peu toutes nos activités pour pas être que spécialisé dans notre activité et pouvoir être interchangeable. Voilà.
ce qui vous permettra peut-être de justement d'avoir un peu de congé. C'est ça, ou l'idée aussi, ou rien à voir
Oui. Après, on essaye de... Ça, c'est un truc qui nous différencie peut-être aussi des fermes traditionnelles, c'est que peut-être on est des générations qui ont envie d'avoir du temps dehors pour faire autre chose. Et donc, du coup, d'être en collectif permet aussi de se dégager du temps pour pouvoir aller à l'extérieur, faire des choses, s'engager dans le secteur associatif, profiter du temps libre aussi. Voilà, du coup, on essaye de faire ça pour avoir des jours de congé.
Ouais, du coup, c'est la nouvelle agriculture, mais finalement, qui peut-être permettra de moins vous épuiser et de mieux alimenter votre activité avec d'autres choses, de faire évoluer un petit peu la façon traditionnelle de l'agriculture en gardant le côté agroécologique et autonomie, c'est ça, un petit peu
Oui, après, on n'a peut-être pas la prétention de changer l'agriculture en faisant ça, mais en tout cas, pour nous, ça nous paraît important. Et puis, on se rend bien compte qu'en restant sur la ferme, on est très vite enfermé. Et ça aussi, le collectif, c'est super chouette et tout, mais c'est bien de pouvoir sortir dehors, de rencontrer d'autres personnes, discuter. Donc ça, c'est aussi une chance d'être en collectif pour ça, pour sortir dehors et pas rester que enfermé dans la ferme, parce que... En fait, si on ne se fixe pas des congés, on travaille tout le temps, et parce qu'on aime ça aussi. Mais c'est vrai que pour durer dans le temps, on le voit vite déjà. Il y en a plein qui ont des tendinites partout. Donc il faut prendre soin un peu de nous si on veut faire un projet sur le long terme, je pense.
Et alors, tu disais que ça vous permettrait aussi justement d'aller rencontrer d'autres agriculteurs et de mieux vous intégrer localement. Vous avez pu rencontrer déjà un petit peu vous êtes bien accueillis avec cette nouvelle façon de pratiquer l'agriculture. C'est peut-être compliqué à répondre, ça, je sais pas.
Ouais, je sais pas si c'est la nouvelle façon de faire de l'agriculture. Je sais pas s'il faut créer une dissociation des autres agriculteurs. Nous on a choisi en tout cas de faire ça en collectif, mais on a des voisins qui travaillent en collectif aussi. Après, ils sont peut-être sur des échelles plus grandes. C'est peut-être ça qui nous différencie. Mais je sais pas si c'est une nouvelle vision ou quoi. Enfin, en tout cas, je pense essayer de travailler ensemble avec différentes façons de faire. Et oui, les gens sont... Après, on est à Verfeil, donc on a de la chance d'avoir pas mal de jeunes qui se sont installés à droite, à gauche aussi autour de nous. Et donc, du coup, ça fait du lien forcément parce qu'on traverse les mêmes choses. Et avec les voisins, il faut qu'on fasse... Faut qu'on se rencontre un peu plus, je dirais. Mais en tout cas, quand on se côtoie, ça se passe bien. Et puis, on a beaucoup à apprendre d'eux, je pense. Et oui, ils sont assez ouverts sur nos pratiques... Enfin, ils posent des questions, ça les intéresse et tout ça. Je pense qu'on partage pas tout, mais ouais, c'est cool quand même. Ils sont chouettes.
Et du coup, on peut les trouver où, vos produits? Comment vous faites pour commercialiser?
Pour l'instant, on est au marché de l'Aguépi le mercredi après-midi et de Saint-Antonin le dimanche. On fait aussi des paniers à Verfeil, mais bon, de légumes qui vont bientôt s'arrêter. Et après, on vend à une épicerie à Éveil à cette fond et une autre, enfin un magasin bio à Sedona à Caussade. Et après les colis de veau, on les vend, on a une par mail ou par on fait des colis et il faut réserver le colis et on vous livre. On fait des colis à peu près tous les mois, tous les deux mois, et du coup il faut réserver le colis et on vient vous livrer.
Alors, pour vous identifier, c'est Gag de la Veille, c'est marqué sur les lieux de vente, c'est indiqué que ça provient de votre ferme?
Oui, je crois que c'est marqué Ferme de la Veille, mais sinon c'est Gag de la Veille aussi. Et c'est affiché, ouais. Et puis c'est pour l'instant, sur le stand, c'est facile, il y a du pain et des légumes. Voilà. Et après, ce qui est compliqué parfois, c'est que c'est des têtes différentes toutes les semaines, du coup, il y en a ce qui ça peut... Enfin, ça change les habitudes, quoi. Donc, ils reviennent et ils disent, mais il est où le pain de Ambre? Je trouve pas.
Oui, il est là. Il n'y a pas Ambre.
Voilà, c'est ça. Donc, voilà.
Vous êtes dans le petit guide des producteurs locaux là, du Pays Midi Quercy. Donc déjà, on peut trouver votre contact là. Et ce petit guide, vous pouvez le trouver en tapant « Produits en Pays Midi Quercy » sur Internet. Il y a une carte qui géolocalise tous les producteurs qui sont dans ce guide. Et normalement, je vérifierai, mais il doit bien y avoir les coordonnées de la ferme de la Vaïse. Des projets à venir ?
Oh bah,
si vous pouvez dévoiler ou pas, je ne sais pas.
Pour l'instant, on est en train de construire la meunerie, donc pour mettre le moulin pour moudre la farine.
Ok. Vous allez le moudre vous-même alors ?
Oui, ouais.
Ah super.
Et après, on va faire des travaux aussi pour la brasserie, qui va. Enfin, on essaye d'agrandir. Enfin, ouais, on fait des travaux pour agrandir un peu l'espace où il y aura la brasserie. Et après, à terme, il y aura la fromagerie à faire, il y aura l'espace de stockage du grain, parce que quand on fait les moissons, après, il faut pouvoir stocker le grain dans de bonnes conditions. Et après, plein d'autres projets à venir. Il y a une super grange où on pourrait faire plein d'activités. Enfin, voilà, beaucoup de choses sont à construire, quoi. Donc, c'est ça qui est cool. On ne s'ennuie pas.
Ouais, ça tombe bien, vous êtes toute la vie devant vous.
Ouais, c'est ça.
Ben merci beaucoup.
Ben merci.
Et ben bon courage alors. Et on vous suivra hein, de près. Oui.
Ben merci beaucoup.
Et un grand merci à Marie Brandy pour ses chroniques. Les circuits courts, bonjour, que vous pouvez retrouver tous les mois sur CFM et en podcast sur notre site internet cfmradio.fr.
CFM, c'est le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Deuxième partie de ce mag du Pays Midi Quercy avec la chronique. Les offices de tourisme prennent le micro direction la communauté de communes Quercy-Vert Aveyron, où à l'occasion de l'aménagement de son nouvel office de tourisme, la Comcom a eu la bonne idée d'intégrer une exposition permanente qui retrace l'histoire de Bruniquel à travers les âges de la préhistoire. À nos jours, c'est Carole Stanicki qui va tout nous dire. Bonjour Carole.
Bonjour.
Vous faites partie du service inventaire du patrimoine du PETR du Pays Midi Quercy, puisque c'est une exposition qui a été réalisée en collaboration avec tout un tas de partenaires.
Ah bah absolument, c'est vraiment le cas de le dire. On était très nombreux sur cette exposition-là. En effet, donc portée par la communauté de communes et Sandy Von et Christiane Soulier, la maire de Bruniquel. Une exposition a été décidée là, pour être intégrée à ce nouvel aménagement. Et il a été décidé de la concevoir comme une frise chronologique. Donc en effet, qui part des premiers temps, là, de la préhistoire, parce qu'il y a quand même 175 000 années d'histoire maintenant à Bruniquel. Et donc de la préhistoire, de la partie médiévale, la partie moderne, enfin ce qu'on appelle l'époque moderne, c'est du 16e au 19e siècle, donc la partie surtout industrielle de Bruniquel, qui est quand même conséquente et on a souhaité en parler également, et jusqu'à aujourd'hui, en évoquant les artistes qui ont valorisé ce village. Donc voilà, l'idée première qui s'est décidée à plusieurs, puisque il y a eu Claire Simonet de CAS Design, qui est scénographe, il y a eu également Magali Farjas, qui est muséographe, qui a travaillé sur le projet. Et puis, financé par l'État, le département et la communauté de communes. Mais on a également fait appel à des prestataires pour le mobilier, pour la scénographie. Enfin, c'est vraiment un travail collectif et qui est quand même relativement bien abouti, je trouve, puisqu'il y a plusieurs supports. Alors visuels, bien sûr, il y a beaucoup d'archives. En effet, les archives départementales font aussi partie des partenaires qui étaient vraiment des partenaires essentiels hein, puisqu'ils ont fourni toute la matière. Il y a dans l'exposition des reproductions de cartes anciennes du 18e, du 19e. Il y a des plans aussi anciens, des anciennes forges et usines à chaud de Bruniquel. Il y a aussi des images d'archives du 14e siècle. Et là, c'est assez génial, l'idée du cabinet Bixi à Toulouse. Ils ont eu l'idée de reproduire une archive du 14e siècle, donc à partir d'une photo qu'on leur avait fournie via les archives départementales. Ils ont reproduit cette archive à tel point que quand on a visité l'exposition pour la première fois, et ben on a failli tomber dans le panneau. On s'est dit, mais enfin, comment ils ont pu récupérer cette archive? Même le directeur des archives, Jérôme Kras, il m'a dit, attendez, mais on n'a jamais prêté d'archives, qu'est-ce que c'est? Et en fait, la reproduction est vraiment de qualité. Ils ont reproduit le parchemin abîmé, vieilli. Donc non, franchement, c'est de qualité. Voilà, donc il y a cette archive, entre autres. Il y a des reproductions de tableaux aussi. C'est un travail qui s'est mené sur le long terme parce que pour aller chercher ces tableaux, il a fallu rencontrer des collectionneurs privés, des descendants du peintre Ramey. Il a fallu aller aussi à Montricou chez Diego Lara, qui est un collectionneur qui tient la Villa des Peintres à Montricou, qui a un grand nombre de peintres qui ont reproduit le village de Bruniquel. Donc on est allé avec des photographes de l'inventaire pour reproduire ces images et les intégrer dans l'exposition. Donc c'est quand même quelque chose d'assez complet. Et il y a aussi, j'y pense, on avait aussi engagé une campagne de prise de vue par drone. Parce que, notamment pour illustrer le lavoir de Bruniquel, celui qui est en contrebas, qui a une forme de fer à cheval là, qui est assez magnifique, là, du XVIIIe siècle, eh bien, pour appréhender cet ensemble de lavoirs, qui a à la fois une fontaine, un abreuvoir, un lavoir et un pédiluve en fer à cheval, on a décidé de le prendre en drone. Donc en élevant le drone à, aller, je ne sais pas, peut-être 100 mètres ou un peu moins du lavoir, comme ça on avait une vue en top qui était assez intéressante et qui figure également dans l'exposition. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez global, qui englobe une très large partie chronologique. Donc, c'était pas une mince affaire, cette exposition, mais le résultat est assez satisfaisant. J'espère que les habitants et les touristes prendront plaisir à rentrer dans ce nouvel office de tourisme.
Nouvel office de tourisme, oui. Et puis, vous avez mentionné la date, 176 000 ans. Il me semble que c'est justement la date à laquelle ont été repoussées les limites historiques de la présence de l'homme de Néandertal en milieu souterrain profond, justement dans la grotte de Bruniquel. Vous ne pouviez pas passer à côté.
Exactement. C'est le début de l'exposition.
Et donc une exposition sous forme de frise qui court tout au long des très beaux murs en pierre donc de cette nouvelle office de tourisme.
Oui, parce qu'en effet, le parti architectural, c'est Brice Meyerhardt, l'architecte qui a travaillé sur ce projet, a été de laisser une partie des murs apparents pour qu'on voit le matériau, parce qu'on est dans l'ancienne halle et mairie du 19e, du début du 19e à Bruniquel. Donc dans la partie rez-de-chaussée, c'était une halle, un marché couvert, et au-dessus, c'était la mairie. Et donc, elle était en pierre, comme l'essentiel du village de Bruniquel. Donc voilà, le choix a été de la laisser cette pierre apparente sur une partie des murs. Et c'est là que la frise démarre pour la partie préhistoire et médiévale sur la terre. Et ensuite, elle court sur un mur qui enduit de l'autre côté. Et associé à cette frise chronologique qui est vraiment très illustrée, il y a aussi des vidéos. Mmh. Il y a plusieurs vidéos, donc il y a une grosse borne vidéo dans un coin de l'office de tourisme, enfin dans un coin non, parce qu'elle est plutôt bien mise en valeur. Et dans cette borne, eh bien, vous avez accès à plusieurs vidéos qui sont également faites de manière chronologique, et donc préhistoire, époque médiévale, époque classique et contemporaine. Et là, c'est élargi au reste du patrimoine de la communauté de communes. Voilà, on part de Bruniquel, mais vous verrez également le patrimoine des alentours.
Et on suit des personnages ?
Absolument, dans la frise, il a été pensé, et c'est une idée qui est assez chouette, je trouve, d'avoir des accroches via des personnages. Donc en fait, c'est l'homme de Néandertal pour la préhistoire. C'est une lavandière pour la partie du XVIIIe siècle, parce que voilà, on voulait aussi la parité, et puis rendre compte aussi des petits métiers. Donc il y a aussi un paysan comme personnage. Pour la partie du XIXe siècle, c'est Jean-Baptiste Garrigou, qui est le fondateur des forges de Bruniquel. Et puis Henri Ramey, comme artiste pour la partie plus récente. Et ces personnages, dans cette frise, sont remarquablement bien dessinés par l'entreprise Bixis, justement, qui s'est occupée de faire ces dessins. Donc c'est vrai que c'est assez visuel, puisque l'accroche se fait par des dessins accrochés au mur, en plus des documents d'archives et documents figurés qu'il y a dans l'exposition.
Sur le site www.gorge-aveyron-tourisme, on peut recenser tout ce qui se passe au travers l'ensemble des gorges de l'Aveyron. C'est à ça aussi que servent ces chroniques. Les offices de tourisme prennent le micro où aujourd'hui on célébrait le nouvel office et donc l'exposition permanente qui tient désormais place. L'exposition qui a été inaugurée fin octobre, je crois.
Le 15 octobre.
sur l'histoire de Bruniquel à travers les âges de la préhistoire à nos jours. C'est en poussant la porte de ce tout nouvel office de tourisme que vous pouvez rencontrer notamment Sandy Yvon qui tient habituellement cette chronique et qui vous proposera l'ensemble de ce qu'il y a à faire sur la communauté de communes. Kersiver, Aveyron, c'était là qu'on était aujourd'hui. Dans cette chronique, les offices de tourisme prennent le micro avec Carole Stanitsky. Merci Carole.
Merci.
Pour le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et à 21h, et en podcast sur le site cfmradio.fr.